Très bien, merci. On commence par la pièce Paris. Alors, tout à l'heure, on a eu la présentation de deux marques qui étaient un peu pionnières sur les questions de responsabilité, soit environnementale, soit sociale, donc des marques solidaires assez engagées. On reçoit pour la table ronde de cet après-midi deux marques aussi. Précurseurs, je dirais quand même, sur vous allez nous dire ce que vous en pensez, qui sont des marques de vêtements de sport qui s'inscrivent dans l'économie circulaire et qui vont présenter leur projet et leur marque tout de suite. Alors, peut-être dans un premier temps, c'est Romain Tribuil de la marque Circle Sportswear. Donc, tu vas présenter ton projet. Et puis ensuite, Hélène Bussy-Socrate et Ange Bussy-Socrate pour la pièce Paris. Donc, tu as un petit PowerPoint?
L'instant, je viens de l'envoyer.
Très bien. Alors, je te donne ça. Oui,
ah, ça, c'est
là,
pas moi, ça
fonctionne et ça, ce sera pour vous.
Ah,
on commence. Ah, ben, on peut commencer par la pièce Paris, alors. On va commencer par la pièce Paris.
Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Hélène, je suis cofondatrice de la pièce Paris. Et donc là,
bonjour, je m'appelle Ange et je suis cofondateur de la pièce Paris.
Donc, on a créé la pièce Paris en 2019. Il s'agit d'une marque sportswear engagée dans une approche circulaire et locale. Donc là, on se différencie de nos concurrents, c'est qu'on fabrique au maximum ce qu'on peut en France. Donc le stylisme, le modélisme, le prototypage ont lieu dans notre atelier à Paris et la confection en Île-de-France ou alors dans le sud de la France, dans des ateliers de réinsertion. Donc nous, on a commencé à créer la pièce Paris il y a 2 ans où, à l'époque, la mode éthique était plutôt catalogué de ringard, de bohème, dépourvu de modernité et de style. Et donc, on a commencé justement à essayer de changer la vie des personnes sur ce que pouvait être une marque éthique et une marque sportswear. Donc, on a commencé à faire des vêtements réduits en empreinte carbone au maximum depuis 2019. On essaie de s'améliorer chaque année. Je vais vous présenter un peu toute l'évolution des pièces. Et notre objectif à 2022, c'est de faire des vêtements complètement décarbonés. Donc là, je vous présente la première pièce qu'on a créée en 2019. Il s'agit d'un bonnet. Donc ce bonnet est fait à partir de polaire recyclé. Quand on a voulu créer un bonnet, un accessoire, on pensait tout de suite aux sportifs urbains qui font du sport à l'extérieur, donc les runners, les cyclistes, mais aussi les randonneurs, les personnes de la haute montagne qui affrontent le froid. Et on voulait une pièce qui est versatile, qui se glisse facilement dans un vêtement, qui est légère, qui n'est pas trop lourde, qui est respirante et surtout avec une empreinte carbone limitée. Et donc, on a très vite écarté la laine de nos choix en termes de sourcing, puisque vous le savez, on a vu un petit peu les posters que vous avez préparés durant vos cours. La laine consomme énormément d'énergie. Alors, ce n'est pas la laine qui consomme l'énergie, c'est les moutons. Hein, en mangeant de l'herbe, ils ont pris la place de plusieurs arbres et puis ils ont besoin aussi d'être entretenus et du coup, ils consomment beaucoup d'énergie. Donc, on est passé par un filateur qui est situé en mer Méditerranée, qui s'appelle Sikwall. On était un des premiers partenaires de Sikwall. Et donc, cette entreprise, en fait, va participer à l'emploi local en payant et en achetant aux marins pêcheurs le plastique qu'ils ramassent par erreur dans leur filet. À partir de ce plastique récolté dans la mer Méditerranée, Sikwall le transforme en fil de polyester. Et notre tisseur, qui est situé dans la Loire, en France, va le transformer en polaire. Donc, du coup, ce bonnet, il est entièrement fait à partir de bouteilles récupérées dans la mer. Il en a fallu à peu près une trentaine pour ce bonnet. Et il a été confectionné dans nos ateliers près de Paris. Voilà. Donc, pour la petite histoire, les premiers clients de ce bonnet ont été des marins-pêcheurs eux-mêmes. En fait, c'est même des clubs nautiques qui l'ont acheté. Et c'est pour ça qu'on l'a intitulé le bonnet de la mer. Après ce bonnet de la mer, on s'est un peu plus engagé dans notre style sportswear et urbain. Et on souhaitait proposer une pièce du vestiaire classique pour pratiquement tous les sportifs aujourd'hui, c'est les leggings. Les leggings aujourd'hui, la plupart des leggings que vous portez peut-être pour faire du sport sont faits en lycra ou en nylon. Et là, dans notre engagement de réduire à tout prix notre émission carbone par nos vêtements, on avait eu un petit souci à passer directement par du nylon. Et on cherchait aussi un effet seconde peau, vous savez, ce legging qu'on n'a pas du tout l'impression de porter et pourtant qu'on a sur soi, avec en plus un mode de travail, un mode de vie qui a complètement changé avec le Covid et le confinement. Le legging ne se portait pas uniquement pour faire du yoga ou de la gym ou du pilate, il se porte aussi à la maison et puis il se porte même dans le métro ou au travail. Donc on voulait faire un legging sans couture, discret, en maille très fine, doux, et on a commencé à travailler le bambou. Alors le bambou, c'est parfait puisque ça réduit, enfin c'est très peu consommateur d'eau, il faut très peu d'eau pour faire pousser le bambou, mais on a rencontré un petit problème, c'est qu'au bout d'un certain nombre de lavages, la viscose de bambou s'abîmait énormément, et elle boulochait en fait. Donc vu que nos clients sont tous des sportifs et qui peuvent pratiquer par exemple le yoga dans des salles surchauffées, il s'avérait que le bambou s'abîmait beaucoup. Alors là, on s'est remis à chercher un nouveau fournisseur, toujours dans cet esprit de réduire un peu l'empreinte carbone. On s'est approché d'un fabricant de Tencel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Tencel. Tencel, c'est une nouvelle fibre qui a été développée à partir d'eucalyptus. Alors, l'eucalyptus, c'est des feuilles vertes. Il présente de nombreux avantages, en tout cas pour la fabrication de textiles. C'est déjà, il est très doux quand il est tissé. Il est très peu consommateur d'eau, contrairement au coton. Juste pour vous donner un ordre d'idée, vous imaginez une petite parcelle devant vous de 6 mètres carrés. À droite, l'eucalyptus et à gauche, le coton. Avec la parcelle de droite, avec l'eucalyptus, nous, on va pouvoir tisser et fabriquer 10 leggings. Avec la même parcelle de coton, on pourra en faire qu'une seule. Donc on était assez contents d'avoir trouvé cette matière qui était solide, qui était très résistante au lavage, qui ne perdait pas ses couleurs et surtout qui gardait cette texture et ce confort qu'on recherchait pour notre collection athleisure, c'est-à-dire la douceur. Pour consolider un petit peu, je vais vous parler de modélisme puisque vous êtes tous des étudiants en école de mode. Un tissu sans couture, une pièce sans couture, le problème, c'est que ça tient pas. Et pour faire des pièces sportswear qui tiennent pas, c'est pas terrible. Donc, on a décidé de doubler la ceinture, de la faire assez haute et de la doubler et de la couper dans le sens inverse du droit fil pour que l'élasticité soit plus serrée à la taille. Voilà. Donc, ça, c'est le leggings qu'on a appelé le leggings cocooning et le leggings seconde peau. Je vais vous présenter aussi la suite, de là où on en est. Alors, après le leggings, où on a pu cibler des personnes qui étaient intéressées par le sport, mais aussi par d'autres façons de vivre, donc c'est-à-dire l'athleisure, etc. On a décidé de revenir un peu à notre force et à notre cœur de métier, c'est-à-dire au sportswear et aux vêtements actifs. Moi, je suis une ancienne sportive de haut niveau, j'ai fait de l'athlétisme pendant 15 ans, et je sais à quel point, pour un sportif, le vêtement n'est pas pour tout, mais en tout cas, il compte beaucoup pour la performance. Donc là, on s'est dit, OK, il faut lancer aussi une gamme sportswear pour nos clients sportifs qui cherchent un textile léger, qui cherchent un textile résistant, respirant, élastique. Alors là, dès qu'on parle d'élastique, on parle tout de suite un peu de produits polluants. Et en même temps, la matière préférée des sportifs, ça reste quand même le lycra ou le nylon. Donc, pour rester un peu dans notre objectif de réduire l'empreinte carbone, il fallait qu'on trouve en fait un nylon peu polluant et peu consommateur d'énergie. Alors, juste pour revenir sur cette gamme active, là, nous, on teste la plupart de nos produits avec des sportifs de haut niveau. On a un petit réseau de fans, sportifs d'extérieur surtout, l'équipe féminine de sport alpin reçoit régulièrement nos pièces, on les fait tester, on leur demande leur retour pour les améliorer. De même pour les athlètes, donc ceux qui font de l'athlétisme, leurs retours nous sont précieux pour améliorer un peu tous ces vêtements. Donc là, ce polo, le polo de la gamme active, il a été fait à partir d'une fibre de nylon, mais recyclée toujours. Donc le fabricant qui fabrique cette matière est localisé en Italie. Et à partir de moquettes, donc la vieille moquette qui est là, et des filets de pêche, il fabrique un polyester qui est respirant, qui est très léger et qui sèche très vite. Il faut savoir aussi que tout son atelier de production est alimenté uniquement par de l'énergie solaire. Donc en fait, ce polo-là, nous, on arrive à faire économiser, en tout cas au client et à la personne qui va l'apporter, 90% de ses émissions carbone en comparaison à un produit traditionnel que l'on trouvera dans le marché. Donc là, c'est un succès pour nous d'avoir trouvé cette matière, de continuer à la confectionner autour de Paris et dans des micro-ateliers situés en Île-de-France, on est sûr de réduire au maximum l'empreinte carbone de ces pièces. À partir de ce textile, on a aussi développé un legging qui est beaucoup plus actif, là, qu'on ne porte pas forcément au travail, dans ces deux matières. Et vient ensuite, à partir de cette gamme très sportswear, je ne sais pas si vous voyez le mini détail, mais autour de la manche du polo, il y a en fait une bande réfléchissante. Et en fait, sur la plupart de nos vêtements, et c'est un peu la marque de fabrication de la pièce Paris, il y a des bandes réfléchissantes permettant à tous les travailleurs, mais aussi les sportifs qui s'engagent un peu dans des chemins périlleux la nuit, d'être visible à quelques mètres là, s'il y a une voiture qui passe. Et d'ailleurs, j'avais une petite question à vous poser, je ne sais pas si c'est le cas dans la salle, mais combien se sont mis à faire un peu plus de vélo qu'avant, depuis ces dernières années? Qui se déplace à vélo? Ouais, il y a une petite dizaine. Alors, d'après des études, en 2030, figurez-vous que le vélo va remplacer la voiture à Paris. Et c'est ainsi, et c'est en partant de ce fait, qu'on a développé une capsule qu'on a appelée la capsule Neo Workwear, qui est destinée aux cyclistes urbains et aux cyclistes urbaines. Donc là, pour les cyclistes et pour tous ceux qui sont habitués à faire du vélo, et nous, ça fait bien plus de 20 ans qu'on se déplace uniquement à vélo, il y a un problème récurrent qui peut arriver, c'est au niveau du fessier et de l'entrejambe. Le frottement de la selle a tendance à abîmer le jean. On voulait absolument faire un jean, pourquoi? Puisque au cours de la journée, la personne qui se déplace à vélo, qu'on appelle les vélo-taffeurs, finalement, ils font du vélo une demi-heure, une heure, pour rester au travail 8 heures. On a fait une étude l'an dernier pour se renseigner à peu près autour de nous et même un peu plus loin auprès de cyclistes urbains pour comprendre un peu comment ils s'habillaient quand ils faisaient du vélo. Et on s'est aperçu que 90% d'entre eux ne changeaient pas de tenue arrivée au travail. Donc du coup, on voulait absolument répondre à leurs besoins d'avoir une tenue correcte pour aller travailler tout en pouvant faire du vélo. Le tissu le plus solide, en tout cas la matière la plus solide aujourd'hui, c'est le jeans. Le jeans, le problème, en tout cas pour la planète du jeans, c'est son traitement. C'est le délavage, c'est les teintures, c'est tout ça. Le coton, je vous l'ai expliqué, demande beaucoup d'eau. Mais en tout cas, ça reste quand même le plus solide. Donc, pour la gamme Neo Workwear, on est parti sur du denim fabriqué à partir de coton. Mais là, on voulait qu'il soit durable. On voulait qu'en fait, il dure pratiquement toute la vie d'un consommateur. Donc, on a cherché en fait un denim très très solide, hyper résistant, pour qu'il se déchire pas au mouvement. Pour que, avec un choc, puisqu'on peut tomber aussi, ne se troue pas, et qu'il soit aussi un petit peu élastique pour s'adapter au mouvement. Donc là, ce denim, il a été fabriqué en Europe aussi. Il a été tissé dans des ateliers aussi en Europe, pas très très loin. Et la technologie qui a été utilisée pour, en tout cas, le traiter, ne utilise aucun produit chimique. Voilà, il a été, alors pour tout ce qui est technique, on peut répondre à vos questions après, mais en tout cas, il n'y a eu aucun traitement chimique pour faire ce jean. Et vous voyez, il est brut déjà, donc un jean brut n'a pas subi de traitement. Et voilà, donc il est aussi résistant parce qu'il utilise à peu près la même, on utilise à peu près la même technologie que celle des airbags hein, sur les voitures. Donc il est hyper résistant, il peut faire toute une vie. Donc voilà où on en est, en tout cas la pièce Paris. On a l'ambition de décarboner toutes nos collections à l'avenir. On va continuer à faire du Made in France autant qu'on peut. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas quoi faire ce week-end, il y a le salon MIF Expo, salon Made in France à Porte de Versailles, de jeudi à dimanche. On aura un stand au pavillon Île-de-France, donc si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas. Et on va profiter de cette présence au Salon du Made in France pour lancer notre campagne Ulule, une campagne de financement collaboratif, pour justement pouvoir financer l'achat de matières du denim destinées à notre collection Workwear. Voilà, donc c'est tout pour nous, c'est tout pour la pièce Paris. Je vous remercie pour votre écoute et puis je serai enchantée de répondre à vos questions.
Merci. Merci beaucoup Hélène et Ange. Et en effet, on aura du temps tout à l'heure pour que vous puissiez poser vos questions à l'une ou l'autre des deux marques. Et donc, je passe la parole à Romain Tribuil. Oui, après, voilà, si jamais ton intervention inspire d'autres questions, comme ça, on prend tout en même temps. Donc, pour la marque Circle Sportswear.
Bonjour à tous. Je m'appelle Romain, je suis le fondateur et CEO de Circle Sportswear. J'ai eu l'idée de créer Circle en 2019, donc je pense à peu près en même temps que vous, de ce que j'ai entendu. Ah oui, merci. Donc auparavant, moi, mon background, j'ai travaillé 5 ans chez L'Oréal, j'ai travaillé au marketing, j'ai travaillé en vente, en ressources humaines. Ensuite, j'ai créé une première start-up qui s'appelle Yos, qui était dans un univers totalement différent, je vais vous expliquer pourquoi j'y arrive, qui était dans la tech, c'est une entreprise que j'ai revendue à Microsoft. Et en fait, j'avais envie de m'investir dans l'économie circulaire. Moi, je suis passionné par l'économie circulaire au sens large du terme. Et je suis aussi un passionné de sport, puisque j'ai fait beaucoup de courses à pied. Mais j'ai fait mon premier marathon seulement il y a un mois, mais je me suis régalé. Et j'ai participé à une Coupe du Monde en ski et pas mal de championnats de France en running et pas mal de tennis aussi. Et du coup, en fait, j'ai une grande passion pour le sport et j'avais cette envie sur l'économie circulaire. Du coup, quand j'ai revendu ma précédente société, j'ai eu un peu de temps devant moi et je me suis dit, je vais faire un tour du monde parce que je voulais apprendre un nouveau sport qui est le surf. Et du coup, j'ai voyagé dans des endroits magnifiques, en Asie, au Sénégal, au Maroc, ainsi de suite. Je suis arrivé dans des beaux endroits comme ça, où il y a des belles plages qui ont l'air super belles, dans des tout petits villages. Ça, c'est au Maroc, c'est à Im Souan. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un bel endroit pour apprendre à surfer. Sauf qu'en fait, quand on se rapproche, ça ressemble plus à ça. Et en fait, j'ai été totalement choqué par la pollution que j'ai trouvée. Donc ça, c'est un exemple sur une plage, mais vous voyez tout ce qu'il y a sur l'eau, tout ça, c'est des déchets plastiques. Et ça a été un petit peu, enfin, ça a été comme ça partout où j'ai appris à surfer quand j'ai voyagé. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire de ces déchets plastiques? Est-ce qu'on peut leur en redonner une seconde vie? Du coup, j'ai un petit peu regardé d'où vient le plastique, depuis quand il existe. Je ne sais pas si vous avez une idée, d'ailleurs, à peu près de l'âge de l'invention du plastique. Ouais, vas-y. Ouais, et sous sa forme actuelle, un petit peu plus récent encore. Mais sous sa forme actuelle, il a 70 ans. Donc c'est ultra jeune. Enfin, moi je regarde mes grands-parents, ils sont plus âgés que ça. Donc je me dis, ils ont vécu dans un monde où il n'y avait pas ça. Et aujourd'hui, on en est débordé, quoi. Donc c'est assez hallucinant qu'une matière aussi récente nous déborde à ce point-là. Et en moyenne, du coup, je suis revenu à Paris, j'ai repris mon footing tous les jours, j'ai regardé les étiquettes de mes vêtements de sport, et je crois que c'est 70% des vêtements de sport qui sont fabriqués en Asie, puisque l'industrie a été créée vraiment en Asie, ce qui veut dire que tous les vêtements de sport qu'on trouve ici en France, ils ont fait plusieurs fois le tour du monde, et en moyenne, c'est à peu près entre 60 et 80 000 km qui sont faits pour un t-shirt. Je vais prendre l'exemple d'un t-shirt Adidas. Bon, je dis à marque, hein, c'est pas grave. Hein. Mais en gros, un de nos ateliers fabriquait des produits pour Adidas. Je leur ai posé la question, est-ce que c'est matériaux recyclés ou pas? Ils me disent non. Je dis ok. Et les matières, elles viennent d'où? Elles venaient d'Asie, donc de différents endroits. L'atelier est lui au Portugal. Donc la matière partait d'Asie pour venir au Portugal. Ensuite, ils assemblaient les t-shirts. Je leur disais, est-ce que c'est pour vendre par ici? Ils me disaient non, on renvoie en Allemagne dans leur entrepôt. Et au final, c'était des t-shirts pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, donc devenus 2021. Et pour moi, il y a un non-sens, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des matières qui viennent d'Asie, qui sont fabriquées ici en Europe, pour être envoyées en Asie. Donc voilà, tout le transport et toutes les matières qui sont utilisées ont un impact énorme. Et en plus, en fin de vie, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, mais bon, il y a moins de 1% des vêtements qui sont vraiment recyclés. Et après, je ne vous parle pas des conditions de recyclage. Je ne sais pas si vous avez vu The White Man Report, qui est au Ghana. C'est notamment qui montre un petit peu les conditions de recyclage des vêtements de la fast fashion. Et malheureusement, c'est assez catastrophique parce que il faut des humains qui transportent ces vêtements pour pouvoir les recycler. Donc, c'est pas génial. Donc, du coup, je suis passionné de sport, envie d'économie circulaire, j'ai créé Circle. Ça paraît logique. Donc, une marque de vêtements de sport technique créée en économie circulaire. Autour de 5 piliers. Super, on les retrouve là. Donc, le premier pilier, c'est un design responsable. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une trentaine de références dans nos gammes. On n'utilise que 3 matières. En fait, on essaye systématiquement de réutiliser les mêmes matières d'un produit à l'autre, de les dériver et de les utiliser différemment. Donc ça c'est très important. Pour donner un petit exemple, sur un legging, on va avoir une poche pour retenir le téléphone portable. On va utiliser un mesh qui va être le même que pour le short, l'intérieur du short, qui va être le même mesh que pour l'intérieur d'une brassière pour créer l'antitranspiration. C'est tout simple, mais c'est des idées. Si on les applique pas, on va commander 3 matières ou on va développer 3 matières différentes et ça va avoir un impact. On a aussi une production qui est locale, donc nous on n'est pas tout le temps made in France parfois, mais en tout cas on est 100% Europe. Tous les matériaux recyclés sont recyclés en Europe, en Allemagne, en Autriche, en Italie ou en Espagne. On reste dans du circuit court et l'assemblage de nos vêtements est fait en Normandie ou au nord de Porto. Donc on reste en circuit court. Troisième élément, c'est le business model. On lance tous nos nouveaux produits en précommande. On en a lancé un d'ailleurs hier pour s'assurer qu'on produise au plus juste et s'assurer qu'en fait, c'est aussi ça le problème, c'est la fin de vie des produits. Si on n'a pas fabriquer des produits qui ne sont pas déjà vendus, on n'a pas derrière à rechercher comment les recycler, en tout cas à les déstocker plutôt que les recycler. Donc toutes nos nouveautés sont en précommande et du coup il n'y a pas de surproduction. Quatrième aspect, c'est la logistique et le packaging. Donc, packaging, j'ai envie de dire évidemment, mais on n'utilise que du packaging 100% recyclé, fabriqué en Europe. Ça tombe sous le sens vu nos valeurs, mais ce n'est pas évident, je ne vous le cache pas. Et plus de 60% de nos livraisons ont été effectuées à vélo sur notre première année. Donc, ça fait à peu près, ça fait pour la première année plus de 3000 commandes quand même. Ce qu'on a créé, en fait, on a un réseau, on a une 60aine d'ambassadeurs, donc il y a des triathlètes, il y a des foot vélo, il y en a qui sont en courant, qui dans chaque ville en France livrent à vélo. Et ça permet d'avoir une empreinte carbone qui soit meilleure. Et là, par exemple, on va avoir un gros partenariat avec un leader de salle de sport aux États-Unis. Et du coup, les livraisons ne seront pas faites en vélo, mais en voilier, pour aussi avoir une empreinte carbone qui soit meilleure. En gros, dans nos livraisons, on a 0 ferry, cargo, parce que ça détruit les fonds marins et notamment les coraux. Donc, c'est important d'avoir un impact sur toute la chaîne. Et enfin, on a créé une solution qui nous permet d'upcycler et de recycler nos vêtements. Sur l'upcycling, je crois qu'il y a des étudiants de Casa 93, non, d'ailleurs, dans la salle. Ah, ils ne sont pas là. Ah, ils sont en bas. Ok, bon, on aura un projet avec eux. Mais je serais ravi de faire aussi un projet avec vous. Et du coup, on a créé une... Et pour, en fait, ce que tu expliquais avant, Hélène, c'est qu'en général, dans les vêtements de sport et technique, il y a un mélange. Il n'y a pas qu'un seul fil. Il y a des mélanges entre de l'élastane recyclé, entre du polyamide recyclé, du polyester recyclé, et ainsi de suite. Et en fait, on a créé une solution qui, en fin de vie, permet de séparer les différents fils. Et nous, on les revend à nos filateurs, qui derrière nous permet de refabriquer nos futures collections à partir des premières. Et du coup, tout ça, ça permet d'avoir un impact environnemental qui soit le meilleur. D'ailleurs, on a été évalué par une application qui est Clear Fashion, je ne sais pas si vous connaissez, qui évidemment nous place, heureusement, vu nos valeurs, mieux que Adidas, Nike et Patagonia et ainsi de suite. Mais bon, on a une taille qui est très raisonnable, donc il ne faut pas s'enflammer. Le but du jeu, en revanche, c'est de rester à ce niveau d'excellence, même en grandissant, en restant en circuit court, en n'utilisant que des matériaux recyclés ou biosourcés, et de pouvoir continuer à recycler nos produits. Donc en gros, pour avoir quelques grands chiffres, Donc on est jusqu'à 100% recyclé, 100% en Europe. En gros, nous, nos produits, ils mettent 4000 km maximum entre les matériaux recyclés jusqu'au client final en estimant qu'il soit à Paris. Donc si on prend vraiment le kilométrage exact, et utiliser des matériaux recyclés et de la manière où c'est teint et où c'est fabriqué, on a une diminution de 75% des émissions CO2 et 80% d'utilisation en eau. Donc ça, c'est une carte de où sont recyclés, fabriqués nos vêtements. Bon, ça reprend ce que je vous disais avant, mais ça vous donne ça sur une carte. Une des premières choses qu'on m'a dit quand on m'a dit « Ah, tu vas faire du synthétique recyclé, et les microparticules, et les nanoparticules, il va y en avoir plein au lavage. » J'ai dit bah, « Écoute, je sais pas. J'ai jamais vu d'étude qui le montre très concrètement. » Donc, on a mené une étude pour mesurer ce que ça relargue en nano et microparticules de plastique. Donc, on travaille sur un projet qui s'appelle Nanotech, qui est de créer une matière 100% en synthétique recyclé, mais qui ne relargue aucun micro ou nanoparticule de plastique. En gros, c'est tous les déchets qui arrivent, les déchets plastiques qui arrivent des océans sur les plages. C'est ça, en fait, à la base. Et les premières évaluations, c'est qu'elles sont plutôt extrêmement bonnes. Pour le moment, nos matériaux, déjà, en relarguent très peu. Et il y a même un chercheur, donc on travaille avec l'IFTH et l'École des mines sur ce projet. Et il y a un chercheur des mines, en fait, qui fait même une corrélation que plus un matériau est d'origine recyclée, moins il relargue de micro et nanoparticules de plastique. Ça reste une hypothèse, en tout cas si elle est bonne et qu'elle se vérifie, ce sera super positif. Donc voilà, c'est des innovations aussi sur lesquelles on travaille, de s'assurer que demain, nos produits en amont aient une empreinte carbone positive, mais aussi dans leur utilisation et au lavage, ça ne relargue pas ces mauvais matériaux. Donc nous, notre vision, c'est à 3 ans développer une marque multisport. Je ne l'ai pas dit, mais à la base, on a créé des produits pour hommes et femmes adaptés au running et yoga. Et ils ont été testés déjà dans plus de 20 sports. Et on est fiers parce qu'on a le porte-drapeau de la France paralympique, Stéphane Oudé, cette année à Tokyo, qui est un de nos ambassadeurs, qui portait nos produits Circle à Tokyo. Et il a même gagné une médaille d'or en tennis. Alors qu'à la base, les produits ont été faits pour être multisport, mais pas spécifiquement pour le tennis. Donc c'est ultra important pour nous d'avoir des produits qui soient adaptés à tous les sports, mais aussi en dehors du sport, pour pouvoir porter son produit quand on va au running, quand on va à la salle de sport, ainsi de suite, mais aussi en dehors. Et, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais 71% des produits sportswear, donc pour faire du sport, sont achetés pour ne pas faire de sport. Donc c'est important aussi de se dire à quoi ça va ressembler en dehors du sport. C'est important comme chiffre à avoir en tête. Donc voilà, être la référence, pour nous c'est important. Être référence, ça veut dire innover, ça veut dire faire des recherches et puis ça veut dire se développer. Donc aujourd'hui, on est 100% en ligne avec juste, vous pouvez nous trouver physiquement chez Merci, qui est un concept store à Paris. Et ensuite, on sera distribué au Bon Marché à partir du mois d'avril prochain, puis la Samaritaine et également à Londres et aux États-Unis. Donc voilà, je crois que c'est tout pour la présentation de Circle et vous pouvez nous retrouver en ligne. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette présentation. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions du public. J'espère que vous avez des questions. En tout cas, on voit qu'on a deux marques là assez, avec des démarches assez poussées dans l'économie circulaire, dans le positionnement aussi de marché. Et on parlait ce matin de modèle économique et on voit en fait ce que ça veut dire dès le départ de concevoir, donc pas seulement de limiter les impacts socio-environnementaux une fois qu'on a produit, mais dès le départ de concevoir, de créer des business models, des modèles économiques avec une démarche sociale, environnementale ou d'économie circulaire, ce qui change tout en fait, y compris pour la crédibilité, il me semble, des marques. La parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions à poser à Circle Sportswear ou à la pièce Paris sur leur démarche? Oui, alors allons-y. Tiens.
Bonjour. Je voulais savoir, du coup, quand vous parlez d'économie circulaire, on peut peut-être confondre avec peut-être développement durable, et on a vu en cours et même dans la vie de tous les jours qu'il y avait un rapport au social quand même, et du coup, vos deux marques n'en parlent pas forcément. Est-ce que c'est parce que le social ne rentre pas dans ce critère d'économie circulaire, ou alors parce que simplement c'est pas un sujet que vous avez traité.
Merci beaucoup pour cette question. L'un de vous deux, allez, qui veut commencer?
Alors, le circulaire n'implique pas nécessairement une démarche sociale. C'est à l'entreprise de choisir si oui ou non elle décide d'être sociale. En ce qui concerne la pièce Paris, on a décidé d'être sociale. Dans la mode, en tout cas dans le monde de la fashion, il y a eu beaucoup d'exploitation d'ouvriers mal payés, des esclaves modernes. On sait et on a entendu dire que les Ouïghours ont travaillé pour beaucoup de grandes marques. Donc là, nous, ce qu'on a décidé de faire à la pièce Paris, c'est de travailler avec des micro-ateliers. Donc c'est en fait des personnes qui travaillaient avant dans la mode, qui se sont reconverties en entrepreneurs et qui ont ouvert eux-mêmes leur atelier de conception en Ile-de-France. Donc nous, on a un réseau d'à peu près d'une dizaine de micro-ateliers qui sont situés en Ile-de-France. Et donc ces personnes-là ont créé leur atelier chez eux, mais aussi même dans des locaux qui partagent ensemble, avec des machines industrielles qu'elles ont pu acheter d'occasion, etc., ou même neuves. Et donc voilà pour les micro-ateliers. Pour 70% de nos vêtements, on passe par des ateliers de réinsertion et des ateliers d'insertion. Donc c'est des personnes qui sont issues de l'immigration ou qui ont eu des situations un peu plus précaires dans le passé, qui se sont reconverties dans les métiers de mécanicien, qui sont encadrées dans ces ateliers-là. Et donc nous, on travaille par eux. Moi, on a compris de l'économie circulaire, et puis peut-être quand tu veux ajouter, le social n'est pas nécessairement intégré, c'est plutôt intégré dans le développement durable. Mais tes profs, je pense, seront mieux au point que nous.
Nos Circle, on est entreprise à mission, donc ça veut dire que tous les ans, on a un rapport sur la mission. Notre mission, c'est prendre soin de nous et de notre planète. Donc ça veut dire qu'on a des indicateurs sur lesquels on doit reporter, et on a des indicateurs sociaux, en effet. Ça paraît évident, mais on fabrique tout en Europe. Donc déjà, on est en Europe, ça veut dire qu'il y a des couvertures sociales, très pratiquement. En fait, tu as une couverture santé, tu as une couverture chômage. Ça paraît basique pour nous, à Paris, ici, mais dans le monde de la mode, c'est pas un gros pourcentage qui a déjà tous ces éléments-là. Nous, chez Circle, en plus, on a mis en place une chaîne YouTube privée pour nos couturières et couturiers, pour prendre soin d'eux. Parce qu'en fait, c'est un beau métier, mais bon, ça reste un métier très dur, avec beaucoup de bruit. Et du coup, on a beaucoup d'exercices de yoga ou pilates pour les aider à bien se maintenir et à prendre soin d'eux. Et du coup, on a même organisé des cours en fait, dans les ateliers. Et les couturières adorent à chaque fois qu'on arrive et qu'on leur présente des exercices à faire. Donc voilà, c'est un petit peu les engagements que l'on fait. Et s'assurer, en revanche, on audite aussi tous les partenaires avec lesquels on travaille, qu'il y ait des bonnes conditions sociales qui soient mises en place. Après, c'est tout bête, mais c'est y aller, visiter quelles sont les conditions de travail, la salle de cantine, la salle de pause, quels sont les salaires, enfin toutes ces choses-là, on les regarde. Et oui, on paye beaucoup plus les produits, et je préfère que les personnes soient payées plus et mieux, et qu'on paye nos produits un petit peu plus cher, à nous d'apporter de la valeur en fin de vie. Donc c'est plutôt une démarche comme ça, itérative, de je suis prêt à m'engager plus. Voilà. Le social est un petit peu partout. En effet, je ne pense pas qu'il soit dans la définition même de l'économie circulaire, mais en général, quand on fait des projets qui ont du sens comme les nôtres, on a une brique sociale, évidemment.
Merci. Et merci pour cette question. Je pense que ça vaut le coup, en effet, parfois, de redéfinir les termes, parce qu'entre mode éthique, mode circulaire, mode responsable, un tas de choses se cachent derrière, et c'est très important d'en préciser les termes. Il y avait une question juste à côté, c'est ça? Trois questions, allez, très bien. Deux, et une dans le fond? Non, et une juste derrière, ok, super.
Okay. Est-ce que vos marques sont certifiées par des labels?
Alors oui et non. Alors, en tout cas pour nous, parce que nos matières sont certifiées, nos fabricants sont certifiés, On a des IP sur certaines de nos matières et certaines de nos innovations, pardon. Mais les modèles en tant que tels, non. Voilà.
Même réponse. Nos matières sont certifiées, écotexte, écolabel, et le dernier, Global Standard, pour le Tencel, Recycling Global Standard. Après, il y a très peu de confectionnaires, en fait, il y a très peu de marques qui ont besoin derrière d'un autre label. Le label qu'on pourrait aller chercher, en tout cas pour la pièce Paris, c'est peut-être le label fabriqué en France. Pour l'instant, on est sûr que c'est fabriqué en France, puisqu'on va nous-mêmes chercher la prod dans l'atelier. On n'a encore pas trop de doutes, mais s'il faut un jour aller le chercher, ce label, ça sera pas très compliqué pour nous, en tout cas.
Bonjour, merci pour vos présentations. Je me demandais, vous m'entendez ? Ah là, c'est bon, vous m'entendez. Je me demandais, est-ce que vous avez une visibilité sur votre empreinte carbone liée aux données numériques via le site internet, les comptes Instagram, enfin tout ça. Et deuxième question, quel est votre lien entre la croissance de votre projet et la possibilité de le faire perdurer en tant que business durable. Est-ce que vous pensez que la durabilité est possible à lier avec la croissance qu'on connaît dans notre système ? Voilà, je vous remercie.
Merci. Dans les enjeux économiques, tu te lances.
Alors, pour répondre à ta première question, on essaie, nous, dans l'atelier ou en tout cas dans le bureau d'études, de réduire au maximum nos empreintes carbone. Si on peut s'appeler plutôt que s'envoyer un mail, on le fait. On a un navigateur, un search engine, enfin un navigateur de recherche aussi qui réduit les émissions carbone. On essaie même en interne d'appliquer au maximum notre mission. Peut-être pour nos data centers, pour le e-shop, je ne suis pas sûre qu'il y ait une démarche responsable. Non, pour l'empreinte numérique, on n'a pas encore été dans ces calculs-là. C'est une bonne remarque. Je pense qu'en effet, il faut aussi être transparent là-dessus. Et pour répondre à la deuxième question sur les perspectives de croissance, je vais peut-être laisser la parole à Ange, qui est aussi le CEO de la boîte.
Oui, alors, par rapport à la façon de se développer et l'impact que ça peut avoir, alors nous, on a choisi de se développer petit à petit, c'est-à-dire pour maîtriser la croissance et être sûr qu'on puisse respecter les mêmes démarches et aussi bien connaître comment on fabrique les vêtements en partant du modélisme au choix des tissus et ensuite la fabrication. Donc comme ça, ça nous laisse plus tard des pistes si, par exemple, on doit peut-être nous-mêmes ouvrir un atelier ou le faire en partenariat avec d'autres personnes. Dans la formation, après des façonniers, on aura un peu plus de flexibilité. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui la façon dont on va se développer, quand ça va grandir. Mais en tout cas, on essaye de garder des options ouvertes en se disant toujours comment on va fabriquer le produit, en comprenant la démarche derrière, plutôt que d'aller l'acheter dans une usine, ce qui se fait pas mal pour d'autres marques, dans une usine, que ce soit en Asie ou en Europe, un produit déjà fini. Et après, c'est un peu plus compliqué de le modifier, de l'étendre ou de le fabriquer autre part.
Romain, tu veux ?
Ouais. Si. Alors pour l'empreinte numérique, c'est une bonne question. Nous, on est transparent là-dessus, donc tu peux retrouver toutes les informations sur la plateforme ZEI, Z-E-I, où en fait on a l'évaluation carbone de 100% de notre structure, ça veut dire nos partenaires, l'empreinte carbone, l'empreinte numérique, ainsi de suite. Nous, on a quelques règles de base, donc les pièces jointes sont interdites, on n'a que des liens. Les serveurs sont sur Google, il y a peut-être du plus et du moins, mais en tout cas, ils compensent tout ce qui est émis avec plantation d'arbres. Donc voilà, donc on a une évaluation qui est sur ZEI, en tout cas, tu peux trouver toutes les informations. Quant à l'autre sujet, c'est un vrai point, parce que je trouve que souvent, on se dit développement durable, impact, ainsi de suite, il faut rester petit. Ou en tout cas, quelle ambition on peut donner à ça. Et nous, en tout cas, dès le début, ce que je me répète souvent, c'est petite ambition, petit impact, grande ambition, grand impact. Alors du coup, nous, on va avoir un grand impact, et en se disant que si nous, on va réussir à challenger des majors du marché sur du recyclé, sur du recyclage, sur de l'empreinte carbone. C'est-à-dire que nous, plus on aura des parts importantes de marché, bah, plus ce sera vertueux et plus on ira faire bouger les majors de fabriquer les choses différemment, d'arrêter d'aller fabriquer chez les Ouïghours, de regarder un petit peu comment ils font les choses différemment. Et du coup, nous, on veut vraiment se développer et être ambitieux. Et du coup, je parlais que là, on va livrer aux États-Unis par bateau, mais c'est fabriqué en Europe. Et du coup, on va bateau au voilier. Et du coup, notre modèle est de dire, si demain, on se développe aux États-Unis, qui est un très gros marché sur ce que l'on porte, le sportswear et athleisure, on va du coup développer notre production localement là-bas. Donc, on est déjà en train de rencontrer des ateliers, des fabricants locaux pour pouvoir distribuer localement. Et en fait, l'idée, c'est de dupliquer ce que l'on est en train de faire ici en Europe sur une autre plaque pour rester en circuit court, mais localement là-bas. Donc c'est challenging, je ne vous le cache pas, mais voilà, c'est ça la vision.
Merci. Il y avait, voilà. Une autre question, vas-y.
Je vais avoir trois petites questions. C'est, la première, c'est comment on écrit Sikwall ? C'est écrit, on m'a dit. Non, c'est pas écrit. Je vous écoute. S-E-A-Q-U-A-L. Merci. Et ensuite, c'était pour savoir, avoir un peu plus de détails sur les matières. C'était sur la pièce Paris, c'était le nylon moquette. Si vous saviez, un peu plus de détails sur peut-être son nom ou quelque chose comme ça. Sa composition ou des trucs comme ça.
Alors, le tissu moquette, on va l'appeler comme ça, il s'appelle l'éco-nil. Éco-nil. Nil pour nylon, éco pour écologique. Alors, la composition, c'est pas vraiment... tu sais qu'en fait, tout est mélangé un peu dans des grandes bassines. Et puis après, tu sais pas, mais c'est à peu près quoi, c'est 50% moquette et déchets industriels. Ouais. Majoritairement moquette. Et puis après, ils prennent aussi des déchets, d'autres déchets. Ils complètent avec des déchets industriels. Et...
Mais ce qui est intéressant dans ces démarches, c'est que ce sont des vrais déchets. C'est-à-dire que c'est audité par un organisme, par le GRS, le Global Recycling Standard, qui va s'assurer que ce ne sont pas des déchets qui sont produits pour ensuite être recyclés. Parce que c'est un petit peu le problème, justement, quand certaines entreprises qui produisent beaucoup veulent utiliser du polyester recyclé, c'est qu'elles vont aller jusqu'à utiliser des bouteilles, fabriquer des bouteilles dans des usines. Et l'usine d'à côté va les transformer pour dire que c'est recyclé. Et ça, évidemment, c'est pas trop notre démarche. Et c'est pour ça que ce qui est bien dans ce tissu, c'est que ce sont des moquettes usagées, des filets de pêche, alors un petit peu moins, il y a 10% à peu près dans la composition, mais qui ont été pêchés dans la mer et qui contribuent un petit peu à réduire les macro-déchets.
Ok, merci. Et j'avais une deuxième question aussi pour vous de Circle. C'était sur, pareil, la nanotech. Et si c'était, j'ai cru comprendre du coup que c'était vous qui avez développé un nylon qui, une matière synthétique recyclée, qui rejetait plus de petites particules qui polluaient les eaux.
C'est ça qui va polluer tout le reste. Donc on est en cours de développement là-dessus. Donc on fait différents tests, on fait évoluer la matière au fur et à mesure. On teste quel est le relargage. Donc en gros, on fait tourner des machines, hein. On fait évoluer la matière, on la tisse et on reteste. On voit en machine ce que ça donne, s'il y a plus ou moins de micro-nanoparticules de plastique qui sont larguées. Donc ça va prendre du temps. Je ne sais pas si c'est dans 6 mois, dans 2 ans. J'espère que ce sera dans 6 mois. Mais en fait, on fait comme ça les tests. On fait évoluer la matière au fur et à mesure. Et l'enjeu, c'est de se dire, ok, j'ai une matière synthétique qui est clean à l'utilisation. Est-ce que c'est le principal aspect polluant, finalement, d'une matière synthétique recyclée? Donc ça prend beaucoup de temps. On travaille avec des chercheurs qui sont associés au projet. Je ne suis pas chercheur, mais j'essaie de mettre la dynamique là-dessus parce que je sais que c'est un impact réel sur l'environnement.
D'accord. Merci.
De rien, merci.
Alors, d'autres questions? On a encore quelques minutes. Il y a une question devant, c'est ça?
Merci, bonjour. C'était pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur la question de la collaboration et des expertises dont vous vous entourez pour élaborer vos projets respectifs. Moi, ce qui m'intéressait, vous avez abordé beaucoup de questions et vous avez beaucoup développé les aspects constitutifs de vos projets. Je voulais savoir quelle était la nature des équipes avec lesquelles vous collaboriez, comment vous les aviez constituées, sur la base de quelles expertises, ressources, compétences, en fait, chaque individu apporte dans le collaboratif, dans le projet, quoi, proprement dit.
D'habitude, j'aime bien en parler. Et là, sur le temps, j'en ai pas parlé des équipes, mais... Je vous ai expliqué mon parcours et en revanche, je viens pas du tout de ce secteur-là. Ce qui est passionnant chaque jour, c'est que j'apprends beaucoup de choses. Donc je me suis tout de suite investi, j'ai réinvesti ce que j'avais pu gagner dans cette équipe, notamment de grands experts. Donc moi, j'ai une très bonne amie qui avait ramené Havaianas, je sais pas si vous connaissez, en Europe, c'était la patronne d'Havaianas. Elle m'a dit, ton projet est génial, il y a un truc que tu vas te prendre la tête, c'est la prod. Alors entoure-toi de quelqu'un qui va être très bien sur la production. Donc du coup, je suis allé tout basiquement sur LinkedIn. Je me suis dit, quelle marque française a bien grandi avec une fabrication française, le slip français. J'ai contacté leur directrice de production, elle a adoré le projet, elle nous a rejoint. Ensuite, sur la partie design et création, je me suis dit, ouais, ça paraît simple, hein, mais il y a du boulot hein, derrière. Il faut convaincre et ainsi de suite. Mais...
C'est content le slip français.
Ah ouais, non mais c'est nos voisins de bureau en plus. Non, on s'entend très bien avec eux et... après il y a Solène, notre directrice artistique. Après elle venait de quitter hein, le slip français en fait 2 mois avant. Je l'ai pas débauché, je le précise. Solène, notre directrice artistique, elle a un gros background. Elle a travaillé chez Nike, elle a travaillé chez Lululemon, qui est notre marque athlétique. Elle a créé la basket chez Louis Vuitton. En fait, c'est une femme. Elle voulait donner du pouvoir aux femmes pour justement aller passer les entretiens d'embauche en basket sans être en talons et tout. Et après, c'était la directrice artistique d'une marque qui s'appelle Hogan aux États-Unis, dans le luxe. Donc, elle connaît bien et le luxe et le sport. Et elle venait de quitter cette maison-là parce qu'elle en avait marre. Elle ne pouvait pas changer les choses. Et moi, je lui ai donné des parts de la société. Je lui ai dit, Solène, viens avec nous. Tu vas créer, faire de l'éco-design vraiment avec nous. Après, il y a la troisième personne clé qui s'appelle Sylvanie, qui, elle, est une experte dans toute la traçabilité et le sourcing des matières. Parce que voilà, c'est un réseau, c'est la connaissance des partenaires, et ainsi de suite. Ça prend beaucoup de temps et à nous argent. Et dernière personne, c'est mon associé sur toute la partie marketing, marketing et plateforme e-commerce. Et c'était l'ancien directeur général de ClassPass, qui est une licorne américaine dans le sport. Donc en gros, moi je me suis dit en tout cas, c'est eux qui vont apporter ces expertises-là. Alors ils sont aujourd'hui tous freelance pour la société. Avec des parts dans la société. Donc c'est un modèle un petit peu unique. Et là, on est en train de grossir. Donc je pense qu'ils vont intégrer totalement l'entreprise. Et aujourd'hui, on est 12. Donc on a bien grandi. Et ce qui est assez passionnant, c'est qu'on a des vrais experts. Ce n'est pas ma première boîte et je n'ai pas 20 ans. J'ai 36 ans et ces personnes-là aussi 10-15 ans d'expérience. Et en fait, on a... tous ces managers avec beaucoup d'expérience et des alternants ou stagiaires qui nous rejoignent, qu'on en recrute aussi derrière après, et qui du coup bénéficient de l'expérience de ces experts. Et nous, on bénéficie des idées des étudiants. On a beaucoup collaboré déjà avec Sciences Po, avec l'Institut français de la mode, Casa 93, qu'on aime bien aussi ces échanges-là. Ouais, c'est passionnant, j'adore ça.
Alors nous, on vous avez remarqué, on a le même nom de famille. On travaille en couple, on est assez autosuffisant. voilà, donc on travaille tous les jours, toutes les nuits. On a 2 enfants qui se mettent à découper des patrons le week-end. On met au profit un peu nos mères aussi s'il faut finaliser des prototypes. On est des artisans de la mode. On n'est pas vraiment des entrepreneurs à faire des levées de fonds tous les jours. On est plutôt... Isabelle est venue dans notre atelier, c'est le bazar, il y a de la poussière partout, il y a des mètres, il y a des craies, il y a du tissu, on fait tout vraiment nous-mêmes jusqu'au maximum. Là où on confie la prod, c'est au micro-atelier justement qui se charge de la tête de série notamment. On travaille avec 2 couturières, on les a pas présentées, mais Fadila et Sonia qui sont aujourd'hui vraiment sans elles. on n'avancerait pas aussi vite. Et puis après, on a aussi recours à des super stagiaires d'Esmod de l'école de Condé de Nancy. Chaque année, on reçoit des stagiaires pratiquement de mars à août. Et d'ailleurs, ce que porte Ange, le plastron, c'est une pièce qui a été imaginée et conçue par une stagiaire de l'an dernier, Esmod Paris, Marion. Voilà. Tu veux ajouter
des collaborations ? Oui, non, mais ce qui est aussi passionnant dans la mode éthique, c'est que en fait, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont envie d'aider. Et donc, bah, par exemple, quand je vais faire du sourcing pour trouver toutes ces matières, et que voilà, on se présente en tant qu'artisan, ce qu'elle a raconté, c'est qu'ils ont quand même envie de nous aider et de nous proposer des matières en fonction de nos quantités, de bien nous aiguiller, de prendre du temps de parler avec nous. Et c'est aussi un petit peu l'avantage de fabriquer en France. Donc oui, effectivement, dans les ateliers, après, on peut bien suivre la production. Mais aussi pour les tissus, voilà, on peut poser toutes les questions, on a plus de transparence. Donc on a vraiment ce petit réseau de savoir-faire qui s'est un petit peu déplacé au fil des années de la France, de l'Europe, en Asie, et qui est quand même maintenant pas mal en train de revenir en France. Et ça, c'est quand même assez gratifiant. On voit qu'il y a un vrai mouvement de fond qui se développe, qui prend un petit peu de temps, mais qui s'accélère quand même de plus en plus dans ce qu'on trouve être la bonne direction.
Sinon, un grand merci pour vos questions très pointues. Et c'est vraiment passionnant de voir aussi votre engagement et votre attention. Merci beaucoup à tous les trois pour ces présentations. Et bonne chance, on va vous suivre de près. Et je fais venir Isabelle, bravo. Et...